Nous allons prendre la parole dans 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit ceci. À partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, ça veut dire si nous sommes composés de chair physique, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, si nous sommes faits de chair, nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ce ne sont pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles, puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous lisons 2 Corinthiens toujours, chapitre 5, verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est ça mon thème de ce soir. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et lorsque nous nous souvenons de la mission que le Seigneur nous a confiée, allez et faites de toutes les nations des disciples, nous réalisons que c'est une mission qui paraît matériellement impossible, qui paraît très difficile. Lorsque nous voyons les promesses du Seigneur, lorsque nous voyons leur côté totalement positif, donc les promesses du Seigneur sont tellement extraordinaires, et lorsque nous voyons le défi lié à ces promesses, quand nous voyons la détresse dans le monde, nous voyons la souffrance dans le monde, nous avons l'impression que accomplir les promesses du Seigneur, c'est pratiquement impossible. Et l'apôtre Paul nous dit, c'est impossible pour ceux qui marchent par la vue et non pas par la foi. La solution pour une vie de victoire, une vie qui accomplit la parole de Dieu, c'est marcher par la foi et non pas par la vue. C'est la vue qui nous empêche d'avancer avec Dieu conformément à ses projets pour nous. C'est ça notre grand problème. Et nous allons prendre deux exemples des gens qui n'ont pas marché par la vue, mais qui ont marché par la foi et qui ont reçu gain de cause. Nous lisons dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4. Qu'est-ce qui est écrit au verset 46? Jean 4, 46. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut lui et toute sa maison. Nous lisons Luc au chapitre 7. La Bible dit au verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà deux exemples des personnes qui ont cru en la parole de Dieu. La première personne avait son fils qui était malade, mourant. Et elle arrive, donc cet homme-là arrive auprès de Jésus, dit Jésus, descends guérir mon enfant. Jésus dit, mais vous, votre problème, c'est que si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas croire. Et qu'est-ce que Jésus voulait que cet homme-là comprenne? Il devait lui demander, Jésus, guéris mon enfant. Cet homme-là disait, descends physiquement, viens jusqu'à chez moi guérir mon enfant. Et Jésus dit, donc c'est moi que tu veux voir, tu veux me voir chez toi pour être sûr que ton enfant sera guéri. Donc vous, si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas croire. Pourquoi ne pas croire tout simplement que je peux guérir, je suis le Tout-Puissant? Et il dit à cet homme, va, ton enfant vit. Mais la Bible dit, cet homme s'est rattrapé, il a cru en cette parole. Et lorsqu'il est reparti chez lui, l'enfant a recommencé à vivre, la fièvre l'a quitté au moment où Jésus avait parlé. Et le deuxième homme avait son serviteur qui était très malade. Mais cet homme-là, c'était un païen, c'était un romain, donc c'était pas un juif. Et normalement, les juifs, surtout des religieux, comme Jésus était supposé être, des rabbins, donc ne pouvaient pas entrer dans une maison de païens, c'était impossible. Donc c'était un obstacle physique, en quelque sorte, à la guérison de son serviteur. Donc cet homme-là était conscient que demander à Jésus de venir jusqu'à chez lui, c'était quand même une demande exagérée parce que c'était lui, il était un païen. Et c'est pourquoi il s'est ravisé. Il s'est dit, il y a un obstacle physique. Mais est-ce que Dieu a besoin du physique pour guérir mon serviteur? Mais non, puisque Dieu est tout puissant. De même que moi je commande à mes soldats, quand je commande à mes soldats, est-ce que je les touche par le corps pour dire va? Non, je ne touche pas. J'ai dit une parole, va, mes soldats vont. J'ai dit une parole, venez, mes soldats viennent. Donc je n'ai pas besoin de les toucher ni de les fouetter pour qu'ils obéissent à mes ordres. Il suffit que je parle. Donc Dieu n'a pas non plus besoin de physiquement d'être là pour guérir mon serviteur. Il n'a qu'à donner un ordre et mon serviteur sera guéri. Et Jésus était surpris de cette foi-là. Il y a parfois des bonnes surprises pour Dieu lui-même. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il sait, mais Dieu a la capacité de vivre et le présent et l'avenir. Il peut vivre le présent comme s'il ne connaissait pas l'avenir. Voilà la capacité qu'il a que nous n'avons pas. Et donc Jésus était surpris dans son présent de réaliser une telle foi. une telle compréhension de Dieu. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu avec efficacité, c'est parce que nous ne comprenons pas Dieu. Si nous n'arrivons pas à vivre une vie chrétienne de joie, de victoire, de paix, parce que nous ne comprenons pas Dieu. Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Et sans cesse, nous ramenons les choses à la vue, mais peut-être parce qu'on n'est pas non plus libéré aussi de choses physiques. On est attaché sûrement aux choses physiques aussi visibles. C'est pourquoi après ces mêmes choses nous empêchent d'avoir une foi véritable. C'est peut-être ça aussi. On est attaché encore à des objets, on est encore attaché à la richesse matérielle. C'est peut-être ça qui est la source de cet empêchement à vivre par la foi. Et les deux hommes qui ont vécu ainsi, qui ont accepté de mettre leur foi en action, en ignorant le visible, parce que bien aimé, ces gens-là ont ignoré le visible. Ils pouvaient insister, Jésus, viens, viens. Ils n'ont pas insisté. Pour le premier, Jésus a parlé, il s'est contenté de ça. Pour le deuxième, c'est lui-même qui a conseillé à Jésus de parler, de ne pas venir physiquement. Et Dieu nous parle aujourd'hui pour nous dire ceci. J'ai déjà parlé. Ma Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai déjà parlé. Alors, ce que j'ai déjà dit, quand est-ce que tu vas vivre cela? Quand est-ce que tu vas entrer dans cela? Puisque j'ai déjà parlé. C'est le grand problème, c'est que tu refuses de croire. Jésus a dit à Marthe, je vais ressusciter ton frère. Marthe a dit, oui, je sais, à la résurrection. Jésus a dit, non, ce n'est pas une question de résurrection. À la fin des temps, Jésus-Christ dit, c'est pas la fin des temps, c'est maintenant. Si tu crois, je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup continuent à fonctionner sur le modèle ancien. Vous savez, et c'est le premier point que je vais donner, c'est que la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Notre premier problème, c'est celui-là. On n'a pas compris qu'on est devenu d'autres créatures. Qui dit une autre créature, dit une autre façon de fonctionner. Parce que si on continue dans la même façon de fonctionner, forcément, on est resté la même créature. Donc, qui dit une autre créature, dit une vue différente, une ouïe différente, un odorat différent, tout le reste est différent. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et par conséquent, le mode de fonctionnement est devenu nouveau. Autrefois, nous marchions par la vue. C'était normal parce qu'on était des hommes animaux, des hommes qui ne connaissions pas Dieu. Donc, à cause de cela, on marchait par la vue, on faisait des programmations, avoir un diplôme, ensuite chercher du travail. Hier, on a regardé une émission sur, j'ai oublié la chaîne, mais je crois que c'était la 2 ou la 3, qui, les gens qui travaillent et qui se suicident dans le travail et qui sont tués par le travail. Parce que ces gens-là, c'est normal parce qu'ils ont mis le travail à la place de Dieu. Donc le travail est leur secours et ils marchent par la vue. Ils ont besoin d'être embauchés, ils ont besoin d'avoir un CDD, un CDI. Ils ont besoin de beaucoup travailler, faire beaucoup d'heures pour se sentir bien. Ils marchent par la vue. Autrefois, nous étions de ces gens-là. Nous jugeons les gens par rapport à ce que les yeux voyaient. Nous jugeons les gens par rapport aux résultats scolaires. On marchait par la vue. On était déstabilisé par les mauvaises nouvelles. Donc c'est ça la vue. On avait un mode de fonctionnement lié au physique, lié au visible, à l'œil humain. Et ça, c'est ce que nous étions autrefois. Mais quand nous venons à Christ, la Bible dit que nous devenons une nouvelle créature, le mode de fonctionnement change. Nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et pour arriver à destination, donc, on est obligé de faire quoi? De marcher selon la foi. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à destination, n'arrivent même pas dans les escales? Parce qu'ils ne marchent pas par la foi, ils marchent par la vue. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez un vélo, quand vous roulez, qu'est-ce que vous utilisez comme organe pour vous orienter? C'est la vue, c'est les yeux que vous utilisez. Et si vous devez aller à Washington à vélo, vous allez arriver dans combien de temps? Vous allez arriver dans, peut-être dans un mois. Hein? Donc, Paris-Washington vélo, sans compter que vous devez prendre un bateau quelque part, tout ça. Admettons, prenons des pays où on n'a pas besoin de prendre un bateau. Vous devez aller à Pékin à vélo. Donc, vous allez faire combien? Même 3 mois. Et vous marchez comment? Vous vous orientez comment? Par les yeux. Admettons que ce soit même une voiture. Vous vous orientez comment avec la voiture? Par les yeux toujours. Par les yeux. Et combien de jours vous allez faire, vous allez prendre pour arriver à Pékin en voiture? Peut-être 10 jours. 10 jours de voiture. Mais maintenant, si vous devez aller à Pékin en avion, vous allez faire combien de temps? Au maximum 12 heures. Au maximum peut-être 13 heures. Et vous allez, quand le pilote conduit l'avion, quel est l'organe qu'il utilise pour s'orienter? C'est les yeux. C'est les yeux, je vous pose la question. Ce n'est pas les yeux. Il utilise quel organe? Eh bien, ce sont les appareils qui sont devant lui dans le tableau de bord, qui lui disent, tu es à tel kilomètre de l'aéroport, il te reste tel de combien de temps, tu es à telle altitude. Donc le pilote ne voit pas où il va. Il ne voit pas. Mais il sait où il va. C'est ça la différence. Il ne voit pas. Et conséquence, il arrive après combien de temps? Donc, 10 fois moins de temps que toi qui pars en voiture, en regardant où tu vas. J'ai dit même 10 jours, mais ça peut faire même 15 jours. Mais lui, il fait que 12 heures pour arriver à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il utilise un appareil qui fonctionne autrement qu'une voiture. Il utilise un appareil qui fonctionne autrement qu'un vélo. Puisque c'est un autre appareil qui est plus rapide, il est obligé d'utiliser d'autres modes de fonctionnement. Ses yeux ne peuvent pas lui suffire être capable de l'amener jusqu'à destination. Il a besoin des tableaux de bord qui est, et des boutons, des appareils qu'on a mis dans l'avion pour se repérer. Et donc, étant dans cet état-là, il ne sait pas où il est. Non, il ne voit pas où il est, mais il sait où il est. Puisque les appareils lui disent où il est, mais lui ne voit pas où il est. C'est l'état que les chrétiens refusent. Les chrétiens veulent voir où ils sont. Voir où ils vont. La Bible nous demande de savoir où nous allons. Comment le savoir? Ben, c'est la parole de Dieu. On se souvient d'un... Je vais revenir sur ça, mais je préfère le donner déjà à l'avance pour ne pas oublier de ce songe qu'avait fait ce pasteur aux États-Unis. Il y avait match. Je donne la comparaison en football, mais lui, le match qu'il avait vu, c'était pas le football, c'était un autre sport. Mais pour que nous, on comprenne, parce que c'est un sport qui n'existe pas ici en Europe, mais il y avait match comme match de football. Et l'équipe des chrétiens, ils voyaient ça. L'équipe des chrétiens était menée 9 à 0, admettons. Et puis, le songe s'est arrêté là. Alors quand il s'est réveillé, il pleurait du fait que l'équipe des chrétiens était menée 9 à 0 par l'équipe des sorciers et du diable. Alors, il a dit au Seigneur, mais comment le match comme ça, 9 à 0, on est mené? Comment ça allait se terminer? Et vous savez la réponse que le Seigneur lui a donnée? Ben, la fin du match se trouve dans ma parole. La fin du match se trouve dans ma parole. Dans ma parole, il est écrit clairement, ils vous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. C'est écrit, bien aimé. Dans la parole, c'est écrit dans Job 19, 25, c'est moi l'Éternel qui m'élèvera le dernier. Donc, bien aimé, Dieu nous exhorte à marcher comme des pilotes d'avion. Tu ne vois pas où tu pars, mais tu sais où tu pars. À partir d'un organe qu'on appelle la foi. C'est la foi qui est l'organe des chrétiens pour savoir où ils vont, pour leur donner la joie, pour leur donner la force, c'est la foi. Notre problème, c'est que nous n'avons refusé la foi, nous avons préféré la vue. Et la conséquence de ça, c'est que on finit par faire pacte avec le diable. Les gens qui sont là, regardez la montre. 42 ans. 41 ans, je ne suis pas marié. Ça, c'est la vue. Les gens qui sont à regarder la montre. Mais ça fait 2 ans, je ne suis pas guéri. Ça, c'est la vue. Tu es en train de regarder aux choses visibles. Imaginez, bien-aimé, si cet homme-là, qui Jésus lui avait dit, ton enfant vit, imaginez qu'il ne soit pas parti et qu'il ait douté. Son enfant serait mort. Il a obtenu une guérison rapide parce qu'il a cru. Mais ça serait par le biais des médecins. Son enfant allait peut-être faire 2 semaines à l'hôpital. Mais là, parce qu'il a utilisé l'organe que Dieu nous a donné, la foi, il a obtenu gain de cause. Bien-aimé, c'est ça ma première exhortation. Habituons-nous au nouvel organe que Dieu nous a donné, la foi. C'est l'organe que Dieu nous a donné pour vivre la vie chrétienne, pour réussir tous les projets qu'il nous confie. Il nous a donné la foi. Mais Dieu ne change pas. La Bible dit, en lui, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Donc, tu ne peux pas lui imposer la vue. Il refusera toujours. C'est peine perdue. Je conseille ça à chacun de nous qui est ici. Imposer à Dieu la vue, c'est peine perdue. Il ne marchera pas parce qu'il a déjà marché avec la vue. Avec Adam, ça n'a pas marché. Adam s'est rebellé malgré la vue. Il avait tout devant lui. Il avait tous les arbres qu'il fallait. Il avait toute la richesse. Adam vivait avec les lions. Vous vous imaginez une couette, le lion qui se transforme en tapis, en couette. Donc tu te reposes, là, tu fais la sieste sur un lion. Comment ça va être? Ça doit être agréable. Adam vivait tout cela. Mais ça ne l'a pas empêché de désobéir à Dieu. Alors Dieu a changé d'organe. C'est l'organe qui permet la relation avec Dieu. L'organe qui permet la réussite dans tout ce qu'on fait. L'organe qui nous permet de vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. Et la Bible le dit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui s'approchent de lui, ceux qui le recherchent. Il faut croire cela. La foi est très importante. S'il n'y a pas la foi, il y aura la vue et il y aura la chair et ça finira vers le diable. C'est ce qui va se passer. On va commencer à obliger les gens, comme certains obligent les gens d'une manière indirecte à remplir la salle, à remplir les camps, les meetings, les conférences, en leur promettant monts et merveilles, vous serez bénis. Vous aurez plus d'onction, plus de feu, bien-aimés. Parce que ces gens-là ont besoin de vendre la vue aux gens pour que les gens viennent. Mais celui qui croit que Jésus est bon, Jésus est mort à la croix, il n'a pas besoin de vanter des choses visibles. Il a seulement besoin de croire en Jésus. Jésus l'envoie en mission. Il sait que Jésus sera avec lui dans cette mission et Jésus agira. C'est ça la foi. Nous devons croire. On était dans les visites. Là, on est parti au Maroc. On est arrivé dans une maison où il y avait 2 personnes qui habitaient dans une même chambre. Un homme et une femme. Et qui se disaient chrétiens. Alors, ils s'étaient refroidis dans leur vie chrétienne. Et donc, j'étais passé donc en visite pour essayer de les exhorter à retrouver leur foi chrétienne. Et l'homme a dit, moi, je viens d'une famille chrétienne. J'ai tout le temps entendu parler de Dieu. Alors, Quand il a dit tout ça, et il a dit, il ne comprend pas pourquoi il s'est refroidi. Pourtant, quand il s'est baptisé, il était en forme. Il ne comprend pas. Alors, moi, quand j'ai entendu son témoignage, j'ai dit, mais il ne comprend pas. Il ne peut pas supposer que le concubinage va le fatiguer. Je me suis dit dans mon cœur, mais puisqu'il vient d'une famille chrétienne, il connaît la parole. Si je lui répète ça, il connaît déjà ça. Je pense que je vais marcher avec ce qu'il dit. Il dit qu'il ne comprend pas. On va prier que Dieu le fasse comprendre. C'est tout. Puisque il ne faut pas qu'on me force à dire ce qu'il veut que je dise. Bon, puisqu'il dit qu'il ne comprend pas, on va prier que Dieu le fasse comprendre. Je crois en la fidélité de Dieu. Et on a discuté d'autres choses. J'ai exhorté la femme, j'ai exhorté sur d'autres points, elle avait des blocages sur d'autres points, on a parlé. Et ensuite, à la fin, j'ai dit, Seigneur, nous prions que toi qui révèles les choses cachées, que tu révèles à notre bien-aimé ce qui bloque dans sa vie, et puis nous croyons en toi que tu vas agir. Et dans ma tête, je me disais, bon, même si c'est après 5 jours que Dieu va se révéler à lui, même si c'est après 10 jours, mais je crois que Dieu va se révéler à lui pour son salut, puisqu'il nous a ouvert la porte de sa maison. Je crois que le salut est entré dans cette maison-là. Peu importe le temps, mais Dieu va se révéler à lui. Bien-aimé, je finis à peine la prière et je vais partir. Il lève la main. Mais il y a un point là. Le problème du mariage, patati patati, c'est lui qui commence, bien-aimé. Je me suis dit, non, Dieu Tout-Puissant. Moi, je m'attendais à 5 jours, comme les gens, bon, on nous a tellement tapé sur le fait que Dieu était lent, or il est rapide. Donc, je lui donnais peut-être 5 jours, 2 jours, je disais peut-être à mon absence, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va agir. Bien-aimé, juste avant de finir la prière, j'allais me lever, il me stoppe, il dit, non, mais il y a encore une affaire à régler là. Notre problème de mariage, il y a ça, on a déjà fait telle chose dans la famille. Alors, bien-aimé, c'est de ce problème-là qu'on a débattu beaucoup plus longuement et le Seigneur a parlé. C'est pour dire quoi? Nous devons croire. Si nous ne croyons pas, nous allons obliger les gens à se convertir. Nous allons leur mettre des pièges, leur promettre des choses. Non, il faut croire, il faut dire ce que nous avons à dire et laisser le Saint-Esprit faire. Dieu veut sauver les gens plus que nous. Dieu est tout-puissant, bien-aimé. Habituons-nous au nouvel organe que Dieu nous a donné. Nous allons lire le psaume 33. La Bible dit ceci. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous arrêtons là pour le moment. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Au verset 9, car il dit, la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Donc Dieu fonctionne comment? Il parle et les choses se font. Le trésor qu'il donne, c'est sa parole. Il parle et les choses se font. Et la Bible dit que nous devons le célébrer à cause de ça. Donc Dieu confond les gens du visible. Il confond les gens de la démonstration par la parole. Les gens s'attendent à voir des choses. Un Goliath venir, il voit un David qui vient et qui gagne. Dieu confond les gens par sa parole. Et La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Pourquoi? Parce que Dieu, quand défait, il renverse les projets des nations. Vous savez, on a une mission tellement grande que nous avons aussi des ennemis très grands. Et ces ennemis-là, ça peut être même un pays. Les chrétiens chinois avaient comme ennemi tout un pays, leur pays, leur État. Vous imaginez ce que c'est que la Chine, avoir comme ennemi l'État chinois, c'est perdre d'avance. Mais ils n'ont pas cru en cela. Il y en a qui ont fait 20 ans de prison, 22 ans de prison, parce qu'ils croyaient que Dieu était plus fort que l'État chinois. Et aujourd'hui, il y a un grand réveil en Chine, car Dieu est tout puissant. Bien aimé. Nous avons des ennemis tellement grands que le simple fait de les voir, ça peut te déstabiliser complètement. Le simple fait, bien aimé, de s'imaginer que tout ce qu'on dit au téléphone est entendu. Le simple fait de s'imaginer que tous nos voyages qu'on peut faire, on connaît là où on va, on nous file. Le simple et le fait de s'imaginer qu'on peut te donner un policier qui puisse te surveiller jour et nuit. On peut te le faire, donc on peut surveiller. Le simple fait d'imaginer que là où nous allons, on peut nous isoler quelque part et nous tuer. On peut nous cambrioler la nuit et nous tuer par nos ennemis. On a des ennemis grands. Notre ennemi, c'est le diable. Et la Bible dit que le diable dirige toutes les nations. C'est lui, la Bible dit, le monde entier gît sous la domination du diable. Le fait de penser à tout ça, ça peut te déstabiliser complètement. Complètement. Nous, on allait au Maroc. Le fait de savoir qu'on avait des Bibles dans les valises, les CD des prédications en grande quantité, les tracts, surtout il y avait le tract, beaucoup de religions, un seul Dieu. Et dans ce tract-là, on disait que, Mohamed n'est pas la solution, c'est Jésus. Alors, on avait tout ça, ben il fallait passer la frontière, bien aimé. Alors, si tu imagines tous les policiers, tu imagines tous les contrôles, tu vas trembler et ne pas faire la mission de Dieu. Mais si tu te souviens que c'est Dieu qui est tout puissant. Comme disait le frère André, puisque tu es le Dieu qui donne la vue aux aveugles, tu peux rendre les gens aussi aveugles, ceux qui ont la vue. Alors, bien-aimé, quand tu te souviens de Dieu, tu passes la frontière avec courage. Et vous savez ce qui se passe? C'est que les gens vont s'intéresser à ce qui est inutile. Les douaniers, vous savez, ils se sont intéressés à quoi? À ma glacière, là où il y avait les saucissons secs, le poisson salé. Donc, c'est là où ils ont insisté. Ils ont tellement insisté sur ça que ils ont oublié que l'or passait ailleurs, bien aimé. Donc, nos valises n'ont même pas été fouillées. Moi, j'ai dit, bon, merci Seigneur. Donc, il fallait que j'amène la glacière, alors. Donc, mais c'est pas la glacière qui a sauvé, c'est l'Éternel, bien aimé. Ils ont tellement insisté sur la glacière. Est-ce que vous avez un certificat qui vous autorise à amener cette nourriture? Moi, je dis, j'en ai pas, mais on aime manger ça. Oui, mais discussion sur la glacière et ni le sac à main, ni les valises où il y avait les Bibles, il y avait tout ce qu'il fallait, les armes de combat, les Kalachnikovs, on n'a pas été touchés. On est passé tranquille, bien aimé, avec les grenades, bien aimé. C'est ça. Dieu est tout puissant. Si tu regardes à lui, si tu as l'organe de la foi comme organe de fonctionnement, tu vas réussir avec Dieu. Tu vas entrer dans ton plan. Tes prières seront exaucées. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez. Nous, on veut voir avant de croire. Croyez que vous avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Changement d'organe. Et là, nous voyons que Dieu... Il renverse même les plans des nations. Même si un pays te cherche, si Dieu veut qu'on ne te voit pas, on ne te verra pas. Hein? Donc même si on te met un policier, on te met des agents secrets pour te filer. Bien aimé, avant moi j'ai commencé à contrôler ce que je disais dans mon téléphone. Un moment j'ai dit, mais attends, Dieu peut, celui qui si mon téléphone est sur écoute, ben déjà je n'ai rien à cacher, je dis la vérité, même si je dénonce le catholicisme, même si je dénonce Sarkozy, Dieu peut faire que tout ce que j'ai dit là, ils n'entendent pas. Donc je commence à parler librement au téléphone, voilà. On va pas se cacher, la terre appartient au Seigneur. C'est ça la Bible, bien aimé. Nous devons revenir à l'organe que Dieu nous a donné, la foi. Et si tu as la foi, tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas accomplir l'objectif que Dieu t'a donné. C'est ça la réalité. Nous continuons. Au verset 14, au 13 plutôt, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Des gens, des dictateurs comme Jules César, ils ont été tués, assassinés. John Fitzgerald Kennedy, il a été assassiné. Mais il était le président de l'armée la plus forte au monde. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. C'est l'Éternel qui conserve la vie des gens. Ce ne sont pas les médecins, c'est l'Éternel. Bien-aimés, changeons d'organe. Changeons de mode de pensée. De mon définition de mode. Revenons à la foi. C'est la foi qui est notre organe principal de fonctionnement. La foi va nous faire contempler Dieu tel qu'il est. L'Éternel des armées, Yahvé Tsevaoth, c'est lui qui protège réellement. La foi va nous faire contempler Dieu tel qu'il est, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Parce que la foi est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est remplie de quoi? De tant de promesses excellentes. De tant de paroles excellentes. L'apôtre Pierre, quand les autres ont fui Jésus, Jésus a dit, mais pourquoi vous ne fuyez pas? L'apôtre Pierre a dit, c'est parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as touché notre cœur, notre foi. Nous avons la vie quand nous avons foi en tes paroles. C'est ça, bien-aimé. Revenons à l'organe que Dieu nous a donné, la foi. Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons changé d'organe. Maintenant, notre organe, c'est la foi. Vous savez, c'est nous seulement qui avons ce problème-là. Vous n'allez jamais voir un poisson chercher à respirer comme les moutons. Il est très content d'être dans l'eau. Le poisson ne respire pas comme nous. Il respire par des branchies. Vous avez déjà vu un enfant dire, non mais attends, je respirais bien dans le ventre de ma mère, je n'avais pas besoin de l'air, j'y retourne ou quoi, j'ai respiré par le sang. Maintenant, faites-moi respirer par le sang. Qui a déjà dit ça? Vous savez que quand on était dans le ventre de nos mamans, on ne respirait pas par l'air, on respirait par le sang. Maintenant, qui veut retourner dans cette forme de respiration-là? Personne ne va dire oui ici. Mais pourquoi, alors que Dieu nous a changé d'organe de respiration, il nous a donné la foi, nous voulons retourner à la vie? Même les animaux sont un enseignement pour nous. Aucun animal ne va chercher à utiliser leurs organes d'un autre animal. Chaque animal est content de l'organe qu'on lui a donné pour se mouvoir, pour marcher. Il n'y a que nous qui cherchons à retourner à l'organe ancien qu'on avait, les yeux, les oreilles. Dieu veut qu'on revienne à l'organe qu'il nous a donné, la foi. Deuxième problème que je voulais citer, c'est notre problème à vouloir contrôler les processus d'accomplissement dans la marche avec Dieu. Un autre problème, c'est celui-là que nous avons. Nous voulons contrôler les processus. Dieu a promis quelque chose. On te demande d'attendre, de croire et d'attendre. Mais toi, tu veux croire et voir comment ça se met en place, ça se construit. Bien-aimé, quand Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi. Donc Adam n'a pas vu comment on construisait Ève. Il s'est réveillé, tiens, elle est là. Mais nous voulons voir comment ça se construit. Nous voulons nous-mêmes aider un peu Dieu. Qui peut aider Dieu? La Bible dit en Romains 11, qui a été son conseiller? Nous voulons aider Dieu. Tu as déjà prié pour que ton mari ou ta femme change. Quoi? Maintenant, tu veux aider Dieu. Tu veux commencer à mettre des vêtements compliqués, tout ça. Pour... Bien-aimé, ce n'est pas, tu vas perdre ton temps parce qu'en matière de vêtements compliqués à la télé, il y en a plusieurs. Donc, c'est une course que tu vas perdre. Si tu entres, tu retournes dans la vie, les païens sont encore plus forts dans cette forme de comportement. Bien-aimé, ils sont encore plus forts. On ne peut pas aider Dieu. Il faut accepter de laisser Dieu faire. Il faut accepter. Et nous, on nous demande de dormir comme Adam. Tu as prié, c'est bon. Tu as mis ta foi, maintenant tu dors. Ça veut dire quoi? Tu ne fais que ce que Dieu te demande de faire. Ne t'invente pas des choses pour précipiter les événements. Fais que ce que Dieu te demande de faire. Quand je dis dors, ce n'est plus rien faire, mais ce n'est faire que ce que Dieu demande de faire. Si Dieu ne te demande pas de faire quelque chose, n'aide pas Dieu. Il n'a pas besoin d'aide. Quoi? Et attends la fin. Lorsque nous montons dans l'avion, nous voyons quand nous montons. Et nous voyons après quand nous descendons. Le milieu, on ne sait même pas. Même donc, tu peux être au-dessus de l'Espagne, on te dit on est en Chine, tu vas accepter. Parce que tu ne vois rien. C'est le nuage. Quand tu regardes par le hublot, il n'y a rien. C'est le nuage, c'est bleu, il n'y a rien. Donc même si on dit Chine, d'accord, on dit, ben, l'avion a changé de direction. On est à Madagascar. D'accord, parce que tu ne vois rien. Mais quand tu vas descendre, tu vas dire, ah tiens, aéroport d'Orly, c'est écrit. Donc, tu vois que le début est la fin. Et Dieu nous demande d'avoir cette attitude-là. D'accepter de voir que le début. Le début, c'est quoi? Que tu as un projet. Tu dis, Seigneur, je prie que ce projet se réalise. Ça, c'est le début. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, fais telle chose. Ben, tu fais ce que Dieu te demande de faire et tu attends la fin. Et la fin, Dieu va se manifester. Là, tu pourras voir. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu as deux instants de vue, au début et à la fin. Ne cherche pas le milieu où la foi va fonctionner, doit fonctionner. Ne cherche pas toi à fonctionner là par les organes anciens qu'on avait. C'est ce qui nous tue, qui nous ramène dans la chair et ensuite vers le diable. C'est ce qui a tué beaucoup de gens qui ont voulu précipiter les promesses. Jésus, on a voulu le faire roi par la chair. Des humains ont dit, voilà, nous allons te consacrer roi. Il a dit, non, je sais que je serai roi un jour. Dieu va me proclamer roi. Il a dit non, parce qu'il savait qu'il l'était déjà. Et que cela allait se manifester un jour. Mais nous acceptons les choses qu'on veut nous donner par la chair. Bien-aimés. Et vous savez ce que Satan fait? Il te crée des fausses promesses en toi-même. Dieu t'a promis A, mais Satan te dit non, Dieu t'a promis A plus. Donc il dit A, mais il rajoute un quelque chose. Et ce quelque chose-là, toi tu vas t'accrocher sur ça, et c'est là que Satan va te coincer. Il va te pousser. Il te crée une envie que Dieu ne t'a pas proposée. Et quand il te crée cette envie, et comme ça ne vient pas de Dieu, Dieu ne va pas donner. Et comme Dieu ne donne pas, ça finit par quoi? Par l'énervement. Et quand tu t'énerves, tu finis par quoi? Par te faire toi-même. Et quand ça ne marche pas, tu finis par aller chez qui? Par aller chez le diable. C'est ce qui se passe. Bien-aimé. Contentons-nous des envies que Dieu nous donne. N'acceptons pas ce que Satan rajoute après. Bien-aimé. Dieu peut te promettre que ton fils changera. Mais attends. Dieu n'a pas dit forcément dans une semaine. Et Satan va rajouter. Mais oui, mais s'il doit changer, ça doit commencer. Le jour de son anniversaire, il faut qu'il te montre comme ci, comme ça. Mais non. Est-ce que Dieu avait dit ça? Non. Satan te crée une envie. Et que Dieu n'a pas donné. Et finalement, ça ne sera pas exaucé. Et tu vas te retrouver dans les problèmes, dans les difficultés. Donc c'est très important, bien-aimé, de nous contenter des envies que seul le Seigneur donne. C'est très important. Et bien aimé, si nous commençons à accepter le début et la faim nous seront bénis. C'est le deuxième point. Souvenons-nous de tous ceux qui ont cru en Dieu. Ils ont fait des exploits. Ils n'ont vu que le début et la fin. Vous savez, lisons la Bible. Est-ce que vous vous souvenez des héros de la foi, des héros de Dieu qui ont gagné par leur propre force ou par leur propre intelligence? Jamais. C'était toujours par les miracles. Pourquoi Dieu s'est habitué à faire les miracles avec eux? Il voulait que l'homme s'habitue au nouvel organe que Dieu a donné, la foi. Parce que si Dieu devait fonctionner avec les moyens humains, on allait toujours s'appuyer sur les moyens humains, sur la logique humaine. Il a fait en sorte que David puisse frapper Goliath, alors que ça pouvait être simple, ça pouvait être une guerre, Israël contre les Philistins, et puis 5 soldats qui se mettent autour de Goliath qui le tuent. Ça pouvait être comme ça, mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Il a voulu que ce soit une petite pierre qui tue le grand Goliath, que ce soit un jeune enfant qui tue le grand Goliath. Dieu voulait faire habituer son peuple à la nouvelle manière de marcher. Le juste vivra par la foi. C'est un verset qui est même dans l'Ancien Testament d'Habakkuk 2. Le juste vivra par la foi. Donc Dieu veut que le chrétien puisse s'habituer à cela. C'est pourquoi dans la Bible, les exemples qu'il nous a laissés, ce n'est que des exemples de miracles. Le fonctionnement de Dieu dans la Bible, ce n'est qu'un fonctionnement miraculeux parce que le chrétien devait être habitué à marcher par la foi. Quand Daniel était dans la fosse au lion, c'est pour nous apprendre que nous n'aurons pas besoin forcément de garde du corps. Aujourd'hui, combien de pasteurs ont des gardes du corps? Je ne dis pas qu'on ne peut pas être entouré par des gens que lorsqu'on va dans des expéditions ou tout ça, qui fassent quand même que la foule n'ait pas accès à nous directement. Mais quand je dis garde du corps, c'est vraiment garde du corps, donc avec des lunettes, avec des talkie-walkie, donc je me souviens même, il y a un groupe de gospel qui était venu au Maroc quand j'étais là-bas, il y a plus de 15 ans, plus de 10 ans plus tôt. Ben, ce groupe de gospel avait des gardes du corps, des gens qui, lorsque tu filmais, ils t'arrachaient cela. Donc, bien aimé, c'était la violence. La violence. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais Jésus, il se promenait avec ses disciples. C'est vrai qu'il entourait. C'est vrai que tout le monde n'avait pas directement accès à Jésus. Ils entouraient Jésus. Mais ce n'était pas des gardes du corps. C'était des amis. C'était des collaborateurs. Bien aimé. Parce que les gens ont perdu la foi. Ont perdu la foi. Et ils mettent sur leur CD copyright. Il ne faut pas reproduire. Ah mais oui, mais si les gens reproduisaient, nos ministères ne seront pas financés. Oui, mais qui finance vos ministères? C'est Dieu ou c'est les gens? Bien aimé. Les gens ont perdu la foi et ils marchent par la vue. Mais lorsque nous lisons la Bible, Jésus a dit aux apôtres quoi? Allez, ne prenez ni bourse, ni vêtements. Ne prenez pas. À un moment, il leur dit, ne prenez même pas deux manteaux, prenez qu'un seul. Un seul. Là où vous irez, on vous accueillera, on vous donnera la nourriture. Et quand ils sont revenus, il leur a posé la question, vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Pourquoi Dieu a laissé toutes ces traces dans la Bible? Pourquoi? Dieu n'est pas contre qu'on ait un salaire. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais il a laissé des traces différentes afin que le chrétien apprenne à marcher par la foi et non par la vue. Il a laissé des traces de ce genre-là. Bien-aimé, quel est ton projet? Dieu te dit, marche par la foi. Suis les traces. Pourquoi Dieu va faire exprès que Sarah puisse mettre au monde à 80 ans? Pourquoi? Parce qu'il veut que les chrétiens changent de façon de voir. Il veut que les chrétiens comprennent que Dieu ne fonctionne pas selon des lois physiques humaines. Il fonctionne selon d'autres lois. C'est le but, c'est ça. Bien-aimés, souvenons-nous de ces exemples-là. Les gens nous diront, mais bien-aimés, sois réaliste. Dis-lui, c'est à toi de lui dire, mais c'est à toi d'être réaliste. Regarde ce que Dieu a fait dans la Bible et tu me demandes d'être réaliste. C'est toi qui n'es pas réaliste. Tu es dans le film de ce monde. Donc reviens à la réalité de la Bible, bien-aimé. Dieu pourvoit. Où que tu sois, il va pourvoir. La Bible dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. La Bible ne dit pas seulement c'est lui qui fait croître les plantes, mais il donne la semence aussi au semeur. Il est à l'origine. Il pourvoit, bien-aimé. Nous devons croire que Dieu est la réponse. Nous devons prendre exemple sur nos prédécesseurs qui ont fonctionné que par la foi. Et nous allons clôturer en lisant le livre de Jérémie au chapitre 1er. Jérémie au chapitre 1er. Qui rejoint 2 Corinthiens 10 qu'on a lu. Donc pour clôturer, la Bible dit ceci, au verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel !» Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est comme si Dieu lui donne quoi? L'autorité, le pouvoir. Il dit, je mets mes paroles. Voilà l'autorité que Dieu nous donne, la Bible. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et nous continuons. Verset 11. Verset 10 plutôt. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Alors Dieu dit à Jérémie, voici, je mets mon pouvoir dans ta bouche. Mon autorité, ce sont mes paroles. C'est mes paroles qui vont faire que tu fonctionnes. Tu vas aller vers tout ce que, vers qui je t'enverrai. Tu décideras, tu diras les choses que je te demanderai de dire. Il dit, je te donne la capacité de décider sur les nations. Vous savez les prophéties de Jérémie, parce que le livre de Jérémie est long. Hein? Les prophéties que Jérémie a données sont en train de s'accomplir jusqu'à maintenant. Les prophéties qu'il a faites, il y a des prophéties qui s'accomplissent pour l'Angleterre, pour beaucoup de pays, des prophéties. Donc les gens qui lisent ces livres-là connaissent Jérémie. Donc Dieu lui a donné l'autorité sur l'Angleterre, sur les pays sur lesquels Dieu lui a demandé de prophétiser. Bien aimé, le pouvoir que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et ce pouvoir, nous l'avons, et Jésus nous envie, l'Esprit de Dieu nous envie. Je me souviens de Jésus qui a dit, petit troupeau, votre Dieu a décidé de vous donner le royaume. Il a dit, petit troupeau, mais c'est à vous qu'on a donné le royaume. C'est comme si Jésus disait, tiens, oh là là, c'est comme s'il avait envie de prendre notre place. Ah oui, parce que lui, il a été toujours roi, Dieu. Mais quand il voit maintenant des petits à qui on donne le royaume, il dit, mais quel bonheur. C'est comme moi quand j'envie les nouveaux convertis. Quand je vois quelqu'un se convertir, j'ai envie moi aussi de me reconvertir. Donc, oui, parce que je sais qu'auprès de Dieu, ça sera l'homme à la... ça sera le bébé à la mode. Vous savez, quand il y a un nouveau-né, c'est lui qui est à la mode maintenant. Voilà. J'ai envie de me reconvertir pour être moi aussi à la mode dans l'île parade de Dieu, bien-aimé. Tu as donné la puissance à Jérémie. Quelle puissance? Par la parole de Dieu. Ce qu'il décide, c'est ce qu'il arrive. Il a donné de détruire. Jérémie n'avait ni d'épée, ni d'armée, rien que les paroles que Dieu lui a données. La Bible, oh là là, c'est la grande richesse que Dieu nous a donnée. Mais ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on réalise cela, les yeux de la foi, qu'on réalise ce que nous avons comme puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous sommes physiques, nous sommes dans la chair physique, nous ne marchons pas selon la chair. Les armes que nous avons sont des puissances pour renverser les forteresses. Les armes que nous avons. Bien-aimés, vous imaginez quelqu'un qui était esclave de l'alcool, esclave du monde. Mais par la prédication de la parole, cette personne abandonne tout et devient quelqu'un de saint. Mais ça, c'est l'arme la plus puissante. Parce qu'on peut mettre cette personne-là en prison, peut-être elle ne lâchera pas l'alcool. Mais toi, avec la parole de Dieu, tu arrives à changer quelqu'un. Bien-aimés, quand je suis reparti au Maroc, je me suis souvenu, avant qu'on me touche par le Seigneur, ce que j'étais. Et je me souviens que les choses de Dieu étaient pour moi comme si on parlait une autre langue. C'est comme si on parlait le chinois. Mais comment se fait-il que quelqu'un comme ça, on peut arriver à le toucher? Vous vous imaginez, c'est comme si toi, un chinois te parle, pendant une semaine tu ne comprends pas, après 10 jours, tu commences à comprendre. Toi-même, tu vas sauter, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends le chinois. Voilà, bien-aimé, c'est ça le miracle de la conversion. Et ça, c'est la prédication qui change cela. C'est la parole de Dieu qui change les gens, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu, c'est l'exemple de Dieu qui change cela. Nous avons des armes puissantes. Et ces armes sont accessibles par la foi. Par la foi, bien-aimé. Par la foi. N'oublie pas, l'organe principal que Dieu nous a donné, c'est la foi. Revenons à la foi. Saisissons la parole de Dieu et avançons dans les projets que Dieu nous a confiés. Ne regarde pas la vue. Ne regarde pas la vue. Il y a une dame, une nageuse, qui voulait traverser la Manche. Arrivée à 50 mètres, il y a eu un brouillard et il faisait nuit. Il croyait que le rivage anglais était encore loin et il a arrêté. Et quand on lui a dit qu'il ne restait que 50 mètres, il a regretté amèrement. Et la prochaine fois, quand il a fait encore la traversée, là, il ne s'est pas arrêté. Jusqu'au bout, il est arrivé. Bien-aimé, ne marchons pas par la vue. La vue peut te faire montrer le brouillard. Ça peut te montrer les vagues. Comme l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, marche, viens à moi. Il commença à marcher. La Bible dit, quand il a senti le vent bouger, il a tremblé. Et c'est là qu'il s'est noyé. Bien-aimé, si le vent bouge, tu dis, c'est pas mon problème. Si mon entreprise coule, de toute façon, ce n'est pas mon entreprise. Le problème, quand c'est ton entreprise, c'est pourquoi tu trembles. Si ma vie échoue, qui m'a sauvé? C'est Jésus. Cette vie appartient à qui? À Jésus. Donc si cette vie échoue, qui échoue? Jésus. Ce n'est pas mon problème. Annoncez-moi toutes sortes d'échecs, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de celui à qui appartient cette vie. Si c'est ton problème, c'est parce que tu ne l'as pas donné totalement à Dieu. Le problème vient de là. Bien-aimé. Si on a des problèmes avec la foi, c'est parce que, quelque part, on s'accroche à des choses parce qu'on ne les a pas données à Dieu. Si nous donnons tout à Dieu, la foi va faire de nous des grands guerriers, des grands héros. Bien-aimé, tu n'auras pas peur. Même si Dieu t'a dit, écoute, mon frère, mon fils, je t'ai donné la Suède, tu vas amener la Suède toute à se convertir. Même si ça traîne 20 ans, 25 ans, ce n'est pas ton problème. Si ça échoue, ce n'est pas ta parole, la parole de Dieu. Toi, garde cela comme véritable dans ton cœur et tu le verras s'accomplir. C'est ça la réalité. Si tu commences à s'accrocher, à inventer des choses pour faire accomplir la prophétie, ça veut dire que tu l'as pris, tu t'es accaparé de ce qui était à Dieu. Restons dans notre place d'instrument de Dieu, manifestons la foi. Et tout ce que nous demandons, tous nos projets liés à la parole de Dieu, cette parole-là, bien-aimée, peut s'accomplir pour quiconque croit. Le choix nous est donné. On est libre. Ou on croit, ou on ne croit pas. Que le Seigneur nous aide à croire.